De Fougères en libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le chemin de halage de la Mayenne où Monique Leroux Serre nous attend, suivant à pied et en solitaire ce chemin de halage. Elle rédige dans la tradition des poètes japonais un journal de voyage mêlant prose et haïku, un haïbun. Et bien nous suivons nous le chemin de mots qu'elle a tracé pour nous tout au long de cet été. C'est là le propos de l'émission de Fougères en libellule sur le chemin de halage de la Mayenne. C'est le titre même du livre de Monique Leroux Serre, publié aux éditions Pipa. Très vite, la pluie se met à tomber. Le paysage se brouille comme dans une brume épaisse. J'aperçois malgré tout, caché sous les branchages d'en face, une grande bande de col vert qui se déplace mollement. Les ondes triangulaires du sillage des canards se croisent, se recroisent. Les ondes triangulaires du sillage des canards se croisent, se recroisent. J'avance sous l'averse orageuse, victime de la météo, sans choisir mes jours, aller sous le ciel de Mayenne tel qu'il se présente, loin du bleu de carte postale. Si la Mayenne est si verte, c'est bien parce que les nuages l'arrosent régulièrement. Sous mon capuchon, j'avance d'un bon pas et ce qui m'étonne, c'est d'entendre et d'être aussi fidèlement accompagné par le bruit de mon respire. Il est si présent que j'ai conscience qu'il est le premier et dernier souffle de la vie. La rivière sous la pluie est le royaume des mouettes qui font des grands ronds en aval et en amont d'un barrage. J'avance sous l'averse, sans ennui, parmi les touffes roses de salicaire, les inflorescences ivoires de reine des prés, les gerbes de feuilles d'iris perlées de gouttes d'eau. Le chemin mouillé reste la même bande de sable clair qui file en caressant doucement les courbes de la rivière. Un bateau me double. Ce sont des vacanciers, nombreux, avec des enfants, qui naviguent de Laval vers Château-Gontier et Angers. Les bornes kilométriques du chemin de halage m'accompagnent. Elles sont pareilles aux anciennes bornes kilométriques des routes constituées d'un parallélépipède blanc surmonté d'un arrondi rouge. Mais là, elles ont un style modernisé pour le tourisme. Taillées dans du granit, certes, elles sont colorées de trois bandes. Celle du bas bleu foncé est illustrée de trois traits plus clairs et ondulants pour symboliser l'eau de la rivière. Sur celle du milieu, très blanche, on lit dans un carré le kilométrage, le zéro se situant au départ de la ville de Mayenne, ainsi que les mots « le chemin de halage de la Mayenne » écrit dans le même bleu soutenu que la bande du bas, sauf le mot « halage » écrit en vert, du même vert que la feuille stylisée qui orne la dernière bande supérieure en demi-cercle d'un bleu plus clair. Combien de réunions, de discussions ont-elles été nécessaires pour aboutir à la création de ce logo dans les services du département? La pluie redouble et les gouttes lourdes font naître sur la surface de la rivière de grands ronds aussi grands que les feuilles de nénuphar qui, sur l'eau grise, sont aujourd'hui du même vert clair que le thé matcha. Sur chaque amer rouge ou vert qui sert à la navigation, une mouette reste en vigie, immobile sous la pluie. Sur le papier, le crayon slalom entre les gouttes. À cette heure, les sœurs de la Coudre, à l'abri dans leur abbaye, doivent lire crayon à la main dans la bibliothèque. C'est étonnant, cette pluie ne me rend pas détestable le chemin de halage. Je me sens bien, peut-être à cause de l'imperméable et de la capuche qui me couvre presque entièrement, ou, ce que je crois plutôt, à cause du couvercle des nuages qui nous coupe du ciel et nous enferme dans un espace clos. Et je me sens habitante du même lieu que ces pêcheurs isolés patients près de leur ligne, des éclusiers, des bateliers. À Persigan, où toutes les passerelles métalliques sont peintes en bleu clinquant, qui tranche à côté de l'orange vive des œillets d'Inde, l'écluse est occupée par l'embarcation qui m'a doublé. Une grande barque blanche, surmontée d'un dais orange, transportant 6 vacanciers, 4 adultes et 2 enfants, qui portent des gilets de sauvetage jaunes. L'éclusier s'active sous la pluie, en short, polo clair et casquette. Juste après, sur le pont d'un affluent, un homme d'âge mûr, épais, qui fait penser plutôt à un chasseur, est appuyé sur le garde-fou. Habillé d'une large veste verte, en bottes et casquette, il pêche tranquillement sous la pluie. Un large ruisseau se jette dans la Mayenne, l'orbe des saules. Un large ruisseau se jette dans la Mayenne, l'orbe des saules. Coin des pêcheurs, tout en haut du saule pleureur, bouchon abandonné. Coin des pêcheurs, tout en haut du saule pleureur, bouchon abandonné. Ensuite, c'est un couvert très sombre. Aucun rayon de lumière ne filtre. Par les trouées vertes des feuilles, des échappées grises et comme embuées sur la rivière. La nature explose sous l'humidité. Les bourgeons de berce des prés s'épaississent comme des fenouilles. L'herbe et les graminées encore vertes sont perlées de gouttes cristallines. Sur les flancs de la vallée, dans des prairies en pente ou à fleurs des rochers, broutent impassibles des vaches noires et blanches. J'entre dans une zone dégagée, bordée par un immense champ planté de tournesols déjà jaunes. Bien plus loin, derrière une clôture de fils barbelés, je longe de grandes prairies couvertes de mouettes blanches dans la brume, entre les nombreuses vaches normandes. Époustouflant ce blanc pur sur l'herbe verte, près des pelages roux et sombres, cette intimité entre les oiseaux de mer et les lourds bestiaux terrestres, ni les uns ni les autres ne semblent surpris de cette cohabitation. Les grands chênes, isolés dans les prés, semblent boire l'ondée qui tombe en silence. J'arrive à une nouvelle écluse, déserte sous la pluie, mais elle se défend bien contre la morosité de la météo. La petite maison d'éclusier, face au moulin d'en face, a de jolis volets et portes bleu ciel, un peu passé certes, mais rafraîchi par les jardinières de pétunias blanches et violettes et le grand arbre à papillons mauves au pied du perron. Maintenant, la pluie fait des bulles en demi-sphère sur la rivière. Les ombelles blanches se tassent un peu sous le poids de l'eau et les arbres en sfumato se grisent au fur et à mesure qu'ils s'éloignent. L'eau dégouline du bas de mon imperméable et me mouille les jambes. Le chemin est détrempé. Contrairement à ce que nous laisse penser la vie urbaine, où nous n'aimons pas arriver mouillés à nos rendez-vous, la pluie est loin d'être désagréable. Les escargots et les enfants le savent bien, les vaches aussi, lascives dans les grandes prairies. Il est vrai que les bois et les forêts en sont bien obscurcis, mais ils recèlent d'autres bruits, d'oiseaux, de sources, de ruisseaux, d'autres odeurs de feuilles, de terre, de mousse. Sans le soleil, les chèvrefeuilles n'embaument plus, mais que la dentelle des fougères fraîche et belle. Le chemin longe maintenant une mare entourée de hauts peupliers qui libèrent leur odeur âcre. Passé midi, j'aperçois l'écluse de la Benâtre dominée par un château sur un tertre très haut au-dessus de la vallée. C'est une écluse pimpante avec restaurants et terrasses dont les parasols à rayures jaunes et blanches sont fermés aujourd'hui. Dans de hauts pots en plastique de couleur grise ou rose à la mode, poussent quelques bananiers. Toutes les portes et les fenêtres sont d'un bleu soutenu et les marches sont encadrées de beaux pieds d'hortensia rose. À chaque volet sont accrochés des géraniums mauves. Philippe, mon cher et tendre, m'attend sur le perron. De fougères en libellule sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux Serre. Le propriétaire du lieu est un créateur. On trouve un peu partout une de ses inventions, comme son arbre à cam, dans quelques branches nues, des étoiles argentées et des petites motos. Contre une dépendance, passe sa retraite un vieux vélo peint en bleu ciel et le pigeonnier est constitué de cabines de plage miniatures, bleues et blanches aussi. À l'intérieur de la salle, sur une grande ardoise, on peut lire la phrase du jour à la craie. Vous avez le vin triste et la cuite mesquine. Moi, quand j'ai bu, je tutoie les anges. Vous aurez peut-être reconnu un dialogue de Gabin dans Un singe en hiver. À cause de la pluie, on mange à l'intérieur. Les tables sont couvertes de nappes à grands carreaux blancs et lits de vin. Par la porte ouverte, on voit un moulin et sa roue sur l'autre rive. Lorsque nous sortons en fin de repas, le temps se lève et le soleil revient. Philippe part devant à vélo et je reprends mon bâton. Dans les trouées de soleil, tout de suite, des balais de papillons virevoltent au-dessus des inflorescences violettes des eupatoires. Je fais de multiples tentatives, mais ils sont si vifs, impossible de les photographier. Le sable sèche, un corbeau se désaltère dans une flaque. Le sable sèche, un corbeau se désaltère dans une flaque. Dans les feuilles neuves, friselis de la lumière, paix d'exister. Dans les feuilles neuves, friselis de la lumière, paix d'exister. Ici et là, le soleil perce sur le sable clair du chemin. Le coteau boisé à ma droite est envahi de lierre, de fougères, de branches de bois morts couverts de mousse. On entend partout des oiseaux gazouiller gaiement. À travers les feuillages, des taches de lumière se reflètent sur l'eau. Philippe dessine ça et là. J'aperçois alors de loin le vélo en attente, debout sur sa béquille au bord du chemin. Le calme est sans limite. On n'entend que des oiseaux, différents, proches ou dans le lointain, des bourdonnements d'insectes, quelques doux bruissements de feuillage, parfois la chute d'un bout de bois de deux ou trois glands, quelques craquements. Immense paisibilité de la courbe de la rivière qui s'incurve contre la paroi rocheuse sur la droite. Le chemin sableux doucement le longe avec en son centre une ligne d'herbe et sur les bords l'ombre verte des arbres, des fougères. Quelle variation de l'état de l'esprit! Ce matin sous la pluie, avec le bruit des gouttes et du respire sous la capuche, les pensées étaient peu nombreuses, enroulé en cocon comme un escargot dans sa coquille. Les pensées s'arrêtaient alors à ce que je voyais, n'allaient pas au-delà des rideaux de pluie. Mais dans cet après-midi d'été au grand ciel bleu, l'enthousiasme soulève les pensées qui partent dans toutes les directions, souvenirs, projets, réflexions. Tout élan et vitalité, j'ai des semelles devant. Je longe un certain temps de grande carrière avec le bruit des pierres concassées qu'on transborde. Les haies sont çà et là envahies de lianes de vignes sauvages, souvenirs d'anciennes vendanges. La borne kilométrique 55 a pour fond un gros massif de houx, le houx qui a donné jadis son nom à la Houssaye. Des bosquets de noisetiers exhibent des bouquets de fruits verts tendres. Sur la berge est parfois aménagé un ponton de pêche en bois. L'eau transparente et peu profonde prend au soleil sur la boue du fond une teinte de thé. 15h30, j'écris debout. Sur le papier crème, l'ombre verte des feuillages, quelques mouches. Sur le papier crème, l'ombre verte des feuillages, quelques mouches. Sur la rivière, les bateaux de plaisance sont de plus en plus nombreux, comme cette pénichette blanche aux rideaux rouges. Les vacanciers prennent un bain de soleil allongé sur le pont. On entend à peine le moteur électrique, juste le glou-glou du tirant d'eau. Les touffes d'iris sont visitées par une multitude de petites libellules bleues électriques aux ailes transparentes. D'autres, beaucoup plus larges, ont les ailes noires bleutées. Près d'une barque isolée, discrètement amarrée loin de toute habitation, peut-être celle d'un fermier du coin, dans un beau pêle-mêle d'épis de chiendent blonds comme les blés, des liserons blancs s'agrippent aux branches fleuries de salicaire. La brume bleutée des lointains évoque la perspective par les couleurs dans les tableaux de Léonard de Vinci. Un arbre sec est tombé en travers de l'eau. Ses branches, longs dortoirs, sont occupées par une colonie de mouettes qui squattent aussi les épaisses barrières en bois clôturant le haras tout proche. Dans un immense préambute, un vieux paysan habillé tout en bleu, veste, pantalon et casquette, coupe les chardons à la manière ancienne, avec un bâton et une faucille. Quand il arrive devant une touffe, il appuie sa main gauche sur le bâton pour se baisser et d'un coup de faucille de la main droite, il coupe les chardons d'un geste vif et adroit. Un homme isolé coupe les chardons du pré sous le ciel d'été. Un homme isolé coupe les chardons du pré sous le ciel d'été. Il m'intrigue beaucoup, car j'ai souvent vu à la ferme, dans mon enfance, mon père ou un commis, désœuvré après les moissons, partir ainsi au chardon à travers les prairies. Ce doit être un grand-père resté à la retraite chez un fils qui a repris la ferme et qui rend ainsi de petits services pour s'excuser de la bouche en plus à nourrir. J'ai envie de lui parler, sans oser. Mais quand j'arrive à sa hauteur, c'est lui qui m'interpelle. « Ça fait du bien une petite promenade au soleil. »« Pas si petite, dis-je pour m'amuser, je viens de Mayenne. »« De Mayenne ? Et toute seule ? Oh, c'est dommage. Si vous aviez un copain, vous pourriez lui tenir le bras, ajoute-t-il en rigolant. Je poursuis mon chemin, mais l'homme me hante encore. Je me retourne et je le prends en photo avec le zoom, alors qu'il est à nouveau penché à couper les chardons. Un peu plus loin, se dresse une vieille éolienne toute rouillée, belle mais aussi étrange, comme tirée d'un roman fantastique du XIXe siècle. Puis c'est un grand chêne, l'arbre noble de nos campagnes, isolé et fier. Les grands arbres me fascinent, qu'ils soient éléments d'une clôture ou isolés au milieu d'un champ. Les chênes surtout, leur force, leur encablure, leurs ramifications structurées. Ils disent quelque chose qui en même temps m'interroge et m'enthousiasme. Mais quoi ? Quelque chose sur les origines, sur les assises complexes biologiques ou historiques de notre vie, de notre culture. Plus loin, un pré est bordé d'un alignement de souches ébranchées, petites et trapues, un peu ridicules avec leur unique branche, le tire-sève qu'on a laissé pour activer la repousse et la production de bois de chauffage. Au Rajasthan s'étendent de vastes zones désertiques parsemées çà et là de ces souches taillées d'acacias épineux, seule ressource de verdure pour les animaux durant les 11 mois sans pluie. On y voit brouter des dromadaires haussant le cou ou des gazelles debout sur leurs pattes arrière. Les bons procédés voyagent de par le monde. Par une magnifique courbe bordée de peupliers au tronc clair, j'arrive au moulin de la Rongère. Il est tenu par un couple d'Anglais qui possède autour du moulin et de l'écluse de vastes champs verts comme des pelouses où broutent une centaine de moutons. Le soir, dans la lumière qui baisse, on voit le mari avec 3 grands chiens, 2 noirs et 1 jaune, aller à travers champs pour surveiller les bêtes. L'hôtesse explique que l'un des chiens noirs va toujours à l'écart vers le cerisier de la haie. Il adore les cerises et s'en repaît. L'éclusier en titre, qui vit dans la maison d'écluse en face du moulin, est en congé. Sa remplaçante passe sa journée à attendre les bateaux dans sa Volkswagen, une coccinelle jaune, portes ouvertes comme des ailes. En tongs et jupe remontées sur les cuisses, elle tue le temps entre 2 bateaux, assise au volant, en téléphonant ou en faisant des jeux vidéo sur son ordinateur portable. La chambre est au 1er étage du moulin, située entre le bief de l'écluse et la rivière, entre 2 eaux. On y accède en empruntant une passerelle métallique. La fenêtre donne sur le chenal et sur la maison d'écluse, Mais la cuisine a un balcon qui donne en plein milieu de la rivière face à l'aval où l'on prend un léger dîner. Sur la façade opposée, le balcon du salon donne sur l'amont. Assise dans un fauteuil, je vois et j'entends très fort la chute du barrage. J'y écris vers 22h20 mes dernières notes du jour en regardant la nuit tomber. Deux grands oiseaux migrateurs s'éloignent, mais je ne sais pas les reconnaître. Les rangées de peupliers, puis la rivière, s'obscurcissent. Le ciel est envahi de nuages gris avec quelques gouttes qui commencent à tomber. Vers 11h du soir, soudain, la lune dort pure à la cime des peupliers. Lave mes pensées. La lune dort pure à la cime des peupliers. Lave mes pensées. Entre la lune et moi, quelques feuilles frissonnent. Fraîcheur de la nuit. Entre la lune et moi, quelques feuilles frissonnent. Fraîcheur de la nuit. Souhaitant voir la fin de la nuit et l'apparition du soleil, je mets mon réveil à sonner à 5h30. Aurais-je le courage de me lever ? De Fougères en Libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux-Serre. Septième jour, sortie du moulin dans l'obscurité. La lune dorée apparaît et disparaît dans les nuages, côté village. Je marche doucement sur le chemin vers l'aval de la rivière, posant les pieds avec grande précaution sur la bande claire du chemin de halage. Il fait encore nuit, mais le ciel assez gris a quelques trouées qui s'éclairent vers l'est. On entend ici et là un oiseau, puis des chants différents de plus en plus. Dans le pré, qui ne me voyait pas, ne m'entendait pas, un petit cheval blanc sursaute violemment et se met à galoper. Le son dur de ses sabots sur le sol résonne très loin. Des grillons chantent dans l'herbe. Quelques ondes s'élargissent sur l'eau, près d'une barque. Je finis par distinguer deux canards qui nagent. Premiers oiseaux visibles dans l'air encore sombre, une bande de mouettes qui se dirige vers le barrage. Les moutons que je distingue à peine dans l'air gris dorment tous encore sur le pré. Il fait doux, des fils de la Vierge chatouillent mon visage et mon cou. Dans l'obscurité se détachent sur le talus de la rive les liserons d'un blanc presque phosphorescent mais encore fermé. Petit à petit le jour s'installe sans que l'on soit conscient de son avancée et les astres, la terre, évolue à toute vitesse dans le cosmos. Dans certaines régions du globe, le soleil se couche. Je me souviens d'un voyage de nuit vers le nord entre Moscou et Leningrad, avec la nuit totale à droite de l'avion et à gauche le grand jour. De cet autre voyage, fait d'une traite vers le pays du soleil levant où longtemps, très longtemps, au-dessus de la Sibérie, le soleil rouge du couchant frôla l'horizon, puis sans trace aucune de nuit, remonta vers un nouveau jour. La lune voyage, encore dorée, dans les nuages qui bleuissent, et vers l'est, les trouées du ciel s'orangent. L'horizon se détache, s'éclaircit, avec une légère brume qui estompe les arbres du fond. Tous les oiseaux s'en donnent à cœur joie, sans arrêt. Est-ce la joie naturelle de voir le jour paraître ? La surface de l'eau se dore, beaucoup de mouettes tournent maintenant en un ballet très calme d'une rive à l'autre de la rivière, à une centaine de mètres en aval de la chute très bruissante. Le croissement d'un corbeau, Là-bas, les façades du moulin s'éclaircissent un peu et l'on distingue le panneau de l'écluse avec le grand rond bleu fermé. La lune, toujours dorée, navigue plus ou moins entière dans les nuages. L'air s'humidifie, l'écume blanche du barrage tranche sur l'eau grise. Ça y est, on peut dire là, maintenant, il fait jour et je vois plus clairement mes écritures, pas toujours droites, sur mon carnet. La lune ronde voyage maintenant dans un ciel devenu bleu foncé. Que d'oiseaux! Des moutons réveillés, belles, et d'autres leur répondent. La rosée soudain est là. Les mouettes continuent leur balai. Les liserons toujours aussi blancs et fermés. Dans leur pré, les moutons sont maintenant actifs. Ils broutent près de la clôture du chemin et j'entends très distinctement le bruit de l'herbe verte qu'ils coupent avec leurs dents à rapides et énergiques mouvements de tête. Grand jour maintenant autour d'eux. Vers l'est, nuages cotonneux bleu-gris foncé sur fond de ciel argent avec quelques orangers. Dans les roseaux, dessous la barque rouge, part un martin pêcheur, d'eau bleue électrique, qui traverse la rivière au ras de l'eau avec de rapides mouvements d'ailes papillonnant. Des insectes volent en banc à 2 mètres du sol. Le ciel rosie et la lumière, de grise, devient dorée. Amortie par la chute, le bruit d'une voiture qui descend le chemin et se gare sur le bas-côté, un homme en sort et s'éloigne en amont avec tout son matériel de pêche. Des vols de pigeons, la rosée s'épaissit sur les herbes. Je remonte le chemin au-delà du moulin. Dépassant la chute, soudain son bruit s'éteint. Entre les 2 rideaux de peupliers, grand balai d'une 20aine de mouettes qui, parfois, pour se nourrir, vont se poser sur les troncs morts arrêtés par le barrage. À l'est, des nuages gris fumés s'étirent dans l'air jaune. Ça et là, de très nombreux ronds dans l'eau, partout, comme les grosses gouttes d'une pluie, les poissons se nourrissent. À travers le rideau de peupliers sur la gauche, très haut sur le mont, un peu flou dans la brume légère, le château de la Rongère. Maintenant, les nuages gris-blancs s'enflamment dans le ciel. Parfois, 2 carpes sautent hors de l'eau, se disputant le même insecte. Des nappes de brouillard, comme une légère fumée, montent de la surface au centre de la rivière. La rosée s'épaissit encore. Un coin de ciel tapissé de nuages or fondus se reflète sur l'eau et le soleil se lève, éblouissant, boule de feu rouge à travers les arbres de l'autre rive. À l'ouest, la lune subitement pâlit dans le ciel bleu porcelaine. Le soleil braise, s'élève à la cime des arbres. La lune soudain neige. Le soleil braise, s'élève à la cime des arbres, la lune soudain neige. Le soleil levant embrase la surface de l'eau, un liseron s'ouvre. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine sur le chemin de halage de la Mayenne en compagnie de Monique Leroussaire. Bonne fin de journée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, bien sûr. De Fougères en Libellule, sur le chemin de halage de la Mayenne, un haïboun de Monique Leroux-Serre.